Le journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Lubrizol, 15 jours après la catastrophe, trois ministres attendus à Rouen aujourd'hui pour lancer un suivi en longueur des conséquences de l'incendie et tenter de rassurer tous ceux qui l'ont subi. Les producteurs de lait en font partie, qui seront bientôt indemnisés par Lubrizol. Un accord a été trouvé. Quand la Turquie rajoute de la guerre à la guerre en Syrie, 60 000 civils ont fui la zone frontalière turque. Depuis mercredi, nous ferons le point avec notre envoyé spécial dans la région. À la une également, Emmanuel Macron et le cas Sylvie Goulard qui vient fracasser ses ambitions européennes. Il va falloir lui trouver un remplaçant ou une remplaçante pour la commission. Peut-être votre invité de 8h20, qui c'est Nicolas ?
Oui, on va lui demander. Il s'agit de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Amélie de Montchalin, l'invité du grand entretien de la matinale. Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000. Sinon, vous passez par les réseaux sociaux ou l'application mobile de France Inter.
Dans ce journal aussi, l'appel au secours des parents, des profs et des élèves des Lilas face à une violence endémique. Un collégien a été poignardé la semaine dernière. Marine Le Pen qualifiée d'étron fumant. Est-ce que c'est une insulte ? La Cour de cassation va se pencher sur cette question aujourd'hui. Et puis l'opéra comme si si vous y étiez, au temps de Louis XVI et de Marie-Antoinette, à la fin du journal.
France Inter.
Il y a d'abord l'image, ce panache noir que les habitants de Rouen et des alentours n'oublieront pas. Il y a l'odeur qu'ils ont sentie pendant plusieurs jours et qui leur a piqué la gorge. Et puis ce chiffre inquiétant et faramineux, 10 000 tonnes de produits chimiques brûlés et ventilés dans l'atmosphère. De quoi durablement inquiéter les Normands qui ont subi l'incendie de Lubrizol et de Normandie Logistique il y a 15 jours. Comment les rassurer ? Les trois ministres sur place aujourd'hui vont tenter d'apporter des réponses. Ils vont promettre un suivi sanitaire et parler aux agriculteurs dont les produits sont désormais suspects aux yeux des consommateurs, comme l'explique Nicolas Giraud, le porte-parole de la Confédération Paysanne.
Il y a toute la perte de confiance localement du consommateur, des citoyens par rapport à tout ça. Ça va être un travail long, certainement, parce que ça va pas être simple à retrouver cette confiance-là. On a des producteurs, des paysans qui nous appellent en disant « voilà, moi je suis pas dans la zone, mais on me collecte plus. Je suis pas dans la zone, mais mon magasin ne veut pas prendre mes productions. Je suis pas dans la zone, mais je vais sur un marché, les gens veulent pas m'acheter ma production. » Le principe de précaution, il est important, on est encore dedans, il faut aller jusqu'au bout sur ce principe de précaution-là, on ne le remet pas du tout en cause, bien entendu. Mais par contre, voilà, le jour où on a des certitudes scientifiques sur les levées qui doivent être faites, il faut qu'on arrive à retrouver cette confiance-là.
Le porte-parole de la Confédération Paysanne au micro de Manuel Ruffez, la question de l'indemnisation des producteurs de lait est désormais tranchée. Lubrizol accepte de payer pour 450 éleveurs dans 6 départements, ceux dont qui ont l'interdiction de vendre leur lait depuis 15 jours. L'entreprise doit aussi, selon les Échos, créer un fonds de solidarité de 50 millions d'euros pour couvrir les pertes de l'ensemble des agriculteurs touchés. À Rouen, les ministres de la Santé, de l'Agriculture et de la Transition écologique vont aussi se projeter sur le long terme en installant un comité de suivi de l'accident avec des ONG, des experts, des élus et des riverains. Pour l'instant, ces ministres disposent de 2 rapports commandés à l'Agence de sécurité sanitaire et à l'Institut de l'environnement et des risques industriels. Ils ont planché sur les conséquences des retombées de suie. Sophie Bécherel, vous avez lu ces rapports qui recommandent de procéder à d'autres analyses et d'aller chercher plus loin dans les sols et dans l'eau.
Les 2 avis de l'ANSES et de l'INERIS se rejoignent. Dans l'urgence, le travail a été bien fait. Chercher les dioxines, les PCB, les hydrocarbures, les furanes et les traces métalliques étaient pertinents. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter là. Un suivi dans la durée s'impose. L'Agence de sécurité sanitaire recommande par exemple d'élargir la liste des substances à rechercher. Il s'agit des produits utilisés par les pompiers pour éteindre le feu, les retardateurs de flammes et les phtalates. D'autres métaux doivent aussi être traqués. À l'avenir, selon l'INERIS, il faudrait s'intéresser aux poissons de rivière et plus largement aux organismes aquatiques et étendre les prélèvements et les analyses de sol. Jusqu'ici, les seuls échantillons de terre prélevés l'ont été chez les exploitants agricoles et c'est d'ailleurs par principe de précaution que leurs productions sont toujours consignées. À présent, il faudrait s'intéresser aux parcs et jardins publics et aux potagers privés. Et pas seulement sur les 5 premiers centimètres de terre. Les polluants peuvent en effet entrer dans les légumes par les racines. Il faut surveiller si c'est le cas. Concernant la contamination éventuelle d'aliments, l'ANSES doit remettre rapidement un deuxième rapport rapport spécifique essentiel pour le monde agricole, toujours en attente d'indemnisation.
Et concernant l'enquête, Lubrizol et Normandie Logistique ont été perquisitionnées hier. Chacune des deux entreprises affirme que le feu s'est déclaré chez l'autre. Et dans la zone de l'incendie chez Lubrizol, un atelier de confinement va être terminé la semaine prochaine pour reconditionner les fûts endommagés.
Il est 8h05 au Kurdistan syrien. Il y a ceux qui se battent armes à la main et ceux qui fuient l'avancée des troupes turques.
Et tous ont le sentiment d'avoir été abandonnés par la coalition qu'ils ont tant aidé contre Daesh. En deux jours d'offensive, l'armée turque aurait pris le contrôle de 11 villages kurdes. Avec nous, Aurélien Colli, vous êtes en train de suivre la situation depuis Erbil, capitale du Kurdistan irakien voisin. Aurélien, les belligérants annoncent déjà des bilans contradictoires.
Oui Florence, 228 morts parmi les miliciens kurdes selon la Turquie, un chiffre démenti par les forces kurdes qui reconnaissent des pertes mais pas d'une telle ampleur. Elles reculent néanmoins face à l'avancée turque appuyée par des milices issues de l'opposition au régime de Bachar al-Assad, milices qu'elles qualifient d'islamistes. Écoutez ce témoignage de Sebri Mustafa, vice-président du conseil de Tel Abyad, l'une des localités frontalières sur laquelle se concentre l'offensive turque. De violents combats se poursuivent au sol, les bombardements continuent et font des victimes civiles. Ils font de la guerre psychologique pour créer la panique, le chaos, pour affoler la population et la faire partir, explique ce responsable, alors qu'au moins 60 000 personnes ont fui les zones frontalières depuis le début de l'opération menée par Ankara. Nous appelons la communauté internationale à faire preuve d'une volonté plus ferme. Personne ne nous aide vraiment, alors que nous avons perdu 11 000 combattants pour débarrasser le monde de Daesh, déplore encore ce responsable de Tel Abyad, désormais encerclé, en décrivant la colère et la rancœur de ses compatriotes face à l'inertie de l'Occident.
Aurélien Colli en direct d'Erbil au Kurdistan irakien. Pendant ce temps-là, la diplomatie patine. Seuls les Européens ont demandé l'arrêt de l'offensive turque au Conseil de sécurité de l'ONU hier. La France, par la voix de Jean-Yves Le Drian, réclame une réunion d'urgence de la coalition internationale anti-Daesh. Et Donald Trump se contente d'évoquer une médiation américaine entre les Turcs et les Kurdes. Il estime que la ligne rouge n'a pas été franchie. Et voilà qui vient ajouter à l'instabilité dans la région. L'Iran vient d'annoncer qu'une explosion a eu lieu à bord de l'un de ses pétroliers près du port de Jeddah en Arabie Saoudite, provoquant une marée noire. L'Iran qui parle d'un possible acte terroriste.
Il est 8h07, Florence. Qui pour remplacer Sylvie Goulard à la Commission européenne?
Sa candidature recalée par le Parlement à Bruxelles hier, Emmanuel Macron subit l'opprobre de toute l'opposition qui lui reproche d'avoir affaibli la France en choisissant l'ancienne ministre mise en cause dans l'affaire des emplois fictifs du Parlement. Il va maintenant devoir ravaler la colère qu'il a montrée hier et trouver un nouveau candidat. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour Florence.
Il va falloir faire vite maintenant.
Ben oui, parce que c'est dans moins de deux semaines que le Parlement doit investir cette nouvelle commission van der Leyen. Et si la France traîne à désigner son plan B, ce sera difficile de tenir les délais. Hier soir à l'Elysée, on disait deux choses. Emmanuel Macron ne veut pas bloquer le système, mais il ne veut pas non plus se précipiter. La réalité, c'est qu'il accuse le coup, marqué comme jamais, disent certains de ses proches. Lui, l'homme du discours de la Sorbonne, incapable d'imposer son choix à cette Europe qu'il veut refonder. Les contacts vont évidemment reprendre avec Ursula von der Leyen. Merkel est à Paris dimanche et il y a un conseil des ministres franco-allemand mercredi à Toulouse. Mais avant de donner un nom, l'Elysée pose d'abord ses conditions. On ne touche pas au portefeuille, hyper large, on garde tout, industrie, marché intérieur, défense, espace, numérique et culture. Le plus logique, Florence, parité oblige, ce serait de proposer une candidate. Le nom de Florence Parly, l'actuelle ministre des Armées, revient avec insistance, à moins que la France ne privilégie Michel Barnier et son impressionnant CV ou Bruno Le Maire. Mais pour cela, il faudrait que la Hongrie, dernier pays avec la France à ne pas avoir de commissaire, propose non plus une, mais un candidat. Emmanuel Macron pourra en discuter tout à l'heure avec son homologue Viktor Orban, déjeuner à l'Elysée.
Yaël Gauz, chef du service politique de France Inter, merci. Pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, un second référendum aura lieu le 30 août ou le 6 septembre prochain, annonce de Matignon. Cette nuit, après 15 heures de discussion entre les leaders indépendantistes, les loyalistes et le Premier ministre Édouard Philippe, l'an dernier, plus de 43% des natifs de l'archipel avaient voté oui à l'indépendance. Une grande manifestation de médecins et de soignants le 14 octobre à Paris. Plusieurs centaines d'entre eux l'ont voté lors de la première AG du collectif Interhôpitaux, réuni à la Pitié-Salpêtrière hier. Ils réclament un plan d'urgence pour l'hôpital public et ils proposent, pour faire pression, d'arrêter le codage des actes médicaux, ce qui prie privera les établissements d'une partie de leur financement.
Et une journée blanche au Lila, en banlieue parisienne.
Les parents d'élèves sont invités à garder leurs ados à la maison aujourd'hui. Les enseignants du collège Marie Curie et du lycée Paul Robert exercent leur droit de retrait depuis une semaine, depuis la mort de Kevin, 15 ans, poignardé devant le collège lors d'une bagarre entre bandes rivales. Des rixes qui ont déjà tué au Lila 3 jeunes depuis un an. Et face à cette violence extrême, les parents, les profs, les élèves se sentent totalement démunis. Reportage sur place, signé Agera Mohamed.
Il y a l'impuissance et la peur chez certains élèves, comme Zoé, en 6e au collège Marie Curie.
Ça arrive souvent entre les garçons, mais aussi des filles qui se battent entre filles. Parce qu'elles ne sont pas du même quartier, pas de la même ville. Ils s'insultent, ils se bagarrent. C'est pas normal que quand on sort de chez nous, on a peur.
Depuis une semaine, des agents de sécurité mobile sont déployés dans les deux établissements par le rectorat. Mais côté enseignant, le choc reste immense.
Vendredi, on a un collègue qui revient, couvert de sang, parce qu'il a essayé de donner les premiers soins à un jeune homme qui a pris des coups de couteau dans le thorax. C'est pas des conditions normales d'enseignement.
Gabriel Atenzio est professeur d'anglais au lycée Paul Robert et délégué du SNES.
On entend des élèves qui disent « Oui, non mais moi, je peux pas prendre certains trajets quand je me rends à l'établissement », qui disent vouloir changer d'établissement. Et là-dessus, si on en arrive là, que des enfants à 15 ans soient dans une si grande délinquance, c'est que nous, en tant que société, nous avons failli.
Il faut que cette société et les institutions bougent, et très vite, selon Sophie, maman d'élèves.
On en a marre que nos enfants soient tués à 15 ans. Et j'ai peur que ce mort-là soit un mort parmi tant d'autres. Voilà, je répète, on est dans le 93 et tout le monde s'en fout. Cette chose-là se serait passée dans Paris, je ne suis pas sûre que ça se passe de la même façon.
Une marche blanche en hommage à Kevin est prévue dimanche de sa ville, du Pré-Saint-Gervais jusqu'au Lila. Les jeunes de tous les quartiers, de toutes les communes voisines sont invités à participer.
Et hier, c'est un lycéen de 16 ans qui a été grièvement blessé à coups de couteau dans son établissement de Cerny dans l'Essonne. Cette question maintenant examinée par la Cour de cassation cet après-midi. Comparer Marine Le Pen à un étron relève-t-il de l'injure ? L'affaire remonte à janvier 2012. Sur France 2, Laurent Ruquier montre un dessin de Charpe dans Charlie Hebdo, un étron sur fond de drapeau bleu-blanc-rouge avec pour légende Le Pen, la candidate qui vous ressemble. La présidente du Front National à l'époque avait attaqué Laurent Ruquier et France 2 pour injure publique. 7 ans plus tard, c'est la 5e fois que la justice se penche sur cette affaire et cette fois, ce sera la dernière, Corinne Audouin.
Il faut imaginer les 19 plus hauts magistrats de France en robe rouge, réunis sous les plafonds en stuc doré de la Grande Chambre, débattre pour savoir si le fait d'être comparé à un étron fumant constitue une injure. Et ce n'est pas simple, car cela relève de l'appréciation du juge qui doit arbitrer entre l'atteinte à la personne et la liberté d'expression. Pour cela, tout est examiné, le contexte, l'intention, l'identité de la personne visée. En 2016, la Cour de cassation avait estimé qu'associer Marine Le Pen à un excrément portait atteinte à sa dignité et que les limites admissibles de la liberté d'expression avaient donc été franchies. Pas d'accord, a répondu la Cour d'appel en 2017. L'injure visait la candidate dans un contexte satirique. Sa dignité ne saurait donc en souffrir et la liberté d'expression doit l'emporter. Le fin mot de l'histoire reviendra à l'assemblée plénière de la Cour de cassation convoquée ici en dernier recours. Le parquet général devrait demander une confirmation de la relaxe pour Laurent Ruquier et France Télévisions.
Corinne Audouin, une aide de 500 euros pour s'acheter un vélo électrique en Ile-de-France. Elle sera versée à partir du 20 février prochain et sera même de 600 euros pour un vélo cargo. Cette aide ne sera pas cumulable avec celle des communes, prévient l'organisme Ile-de-France Mobilité présidé par Valérie Pécresse. Et pas plus d'une demande tous les 5 ans ne sera acceptée. Enfin, l'endroit est absolument splendide pour pourtant, personne ou presque n'en a profité pendant tout le XXe siècle. Cet endroit, c'est l'Opéra Royal attenant au château de Versailles, la plus grande salle d'Europe avant la construction de l'Opéra Garnier. Il s'y joue depuis hier et jusqu'à dimanche la toute dernière pièce qui s'y est jouée sous Louis XVI, Richard Cœur de Lion d'André Grétry, l'une des pièces les plus célèbres à l'époque et qui signa, sans le savoir, Mathilde de Himy, le début de la Révolution française.
L'Opéra Royal est inauguré pour le mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette.
C'était vraiment fait que pour les mariages, donc on y jouait très très peu d'œuvres. Une vingtaine de fois en 20 ans, et c'était exceptionnel.
C'est pourtant un extrait du célèbre Richard Cœur de Lion d'André Grétry qui résonnera ici en dernier. Laurent Brunner, directeur des spectacles du château de Versailles.
Au moment de la Révolution, les gardes du corps du roi ont fait un banquet dans cette salle. Et quand Louis XVI et Marie-Antoinette sont venus les saluer, les soldats ont entonner ce grand air de Richard Cœur de Lion, au Richard, au Mont-Roi. Si le monde entier t'abandonne, nous serons toujours auprès de ta personne. Ce qui est d'ailleurs assez cohérent pour les gardes du corps du roi. Ça a été immédiatement dans la nuit interprété comme un acte contre-révolutionnaire. On a dit qu'on avait foulé la cocarde aux pieds. Et 4 jours plus tard, les femmes de Paris sont venues jusqu'à Versailles et elles ont envahi le château et le palais a fermé définitivement.
Le roi et la reine quittent précipitamment Versailles. L'Opéra Royal ne rouvrira en son état actuel qu'en 2009. Jamais Richard Cœur de Lion, grand succès de son époque, n'avait été joué ici dans son intégralité jusqu'à aujourd'hui. Laurent Brunner.
Dans ce spectacle, on a volontairement utilisé uniquement des techniques qui sont celles du XVIIIe siècle pour faire ce qu'on va appeler les décors et bien sûr les costumes, comme à l'époque.
L'occasion aussi de réhabiliter le style opéra comique où se croisent tragiques, chansons populaires et danses paysannes.
Alors voilà, c'est jusqu'à dimanche, il reste des places. Mmh. Et quelle belle façon de commencer à célébrer le 250e anniversaire de cet opéra royal.
Merci Florence Paracuellos. La météo, comme promis, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Stéphanie, le temps est encore gris au nord mais ensoleillé au sud.
Et au lever du jour, la grisaille est bien installée au nord d'un axe La Rochelle-Strasbourg. Les bancs de brume ou de brouillard sont fréquents, le plafond assez bas. Cette humidité va se dissiper par le sud en cours de journée, mais le ciel restera souvent assez nuageux, en particulier en Bretagne et sur les côtes de la Manche, où une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse s'invite en cours d'après-midi. Au sud de cet axe, le soleil domine largement dès les premières heures du jour. Seul bémol des entrées maritimes qui pénètrent cet après-midi sur le golfe du Lion et qui vont gagner du terrain dans l'intérieur des plaines, de la plaine du Roussillon vers les premiers contreforts du massif central jusqu'au littoral varois en lâchant quelques gouttes. Et même si le vent s'est calmé au sud, il reste encore soutenu sur le Lauragais, le rivage breton et les côtes de la Manche.
Et Mercure reprend des forces.
Il se rétablit dans des normes de saison au nord de la Loire, oscillant entre 17 et 22 degrés cet après-midi. Au sud de la Loire, il est un peu au-dessus des cordes avec 21 à 25 degrés. En revanche, il est très vigoureux en Nouvelle-Aquitaine, atteignant des pointe à 26-30 degrés. Il fera donc bien 22 à Bourg-en-Bresse, comme à Auxerre, 20 à Metz et Chamonix, 21 à Samoin en Haute-Savoie, comme à Cassis et à Paris, mais seulement 15 à Avoria et 16 à Gérardmer.
Merci pour la leçon de présentation et de géographie, Stéphanie Fromentin.